BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
18h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est ensemble pour faire le tour de l'actu économique du jour. On est en direct jusqu'à 19h. Dans l'actualité aujourd'hui, on attendait le chiffrage du programme du nouveau Front Populaire. On l'a eu ce midi et il y en a pour 125 milliards d'euros en 2024 et 2025. Beaucoup de dépenses, beaucoup d'impôts. Est-ce que ça tient la route d'un point de vue économique? On posera la question à nos experts dans 10 minutes. Et puis pendant que le Front Populaire chiffrait son programme aujourd'hui, Bruno Le Maire, lui, était au Luxembourg ce matin pour une réunion des ministres des Finances européens et il leur a promis qu'en cas de victoire, il maintenait son engagement de ramener le déficit sous les 3% en 2027. Mais que vaut encore la parole de la France aujourd'hui vis-à-vis de nos partenaires européens? Ça aussi, on en discute ce soir avec nos experts, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, François Gérolf, économiste à l'OFCE, et Samuel Botton, expert en communication. Voilà le programme, c'est parti, Good Evening Business, on est en direct jusqu'à 19h.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc, c'est l'actu du jour, le chiffrage très attendu du programme du nouveau Front Populaire. Et je vous le disais, il y en a pour 125 milliards d'euros cette année et l'année prochaine. Bonsoir Zidane Azouzi.
Bonsoir Thomas.
Première question toute simple, à quoi servirait tout cet argent Zidane?
Alors le nouveau Front Populaire veut agir immédiatement sur le pouvoir d'achat des Français. Le SMIC serait augmenté de 1400 euros à 1600 euros net. 25 milliards d'euros seront déposés sur la table. Ils serviront à augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10%, mettre fin à la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites, ou encore à la revalorisation des APL de 10%. Face à ces dépenses, le gouvernement engrangerait 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires, une ISF avec une composante écologique qui rapporterait 15 milliards d'euros et une taxe également sur les super-profits.
Ok, donc ça c'est à court terme on va dire. Et puis dans un second temps, Zidane, on passe à des mesures plus structurelles et à des dépenses qui augmentent.
Effectivement, à partir de 2025, on monte le curseur de la dépense publique à 100 milliards d'euros avec des investissements notamment pour l'embauche des enseignants, le recrutement des professionnels de santé et des aides pour la rénovation énergétique. En face, 100 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour financer ces mesures, beaucoup de suppressions de niches fiscales qui rapporteront 25 milliards d'euros, un alourdissement de l'impôt sur les successions et sans oublier la fameuse réforme de l'impôt sur le revenu avec l'ajout de tranches pour le rendre encore plus progressif. Fin 2027, on attendrait 150 milliards d'euros de recettes publiques avec là encore des nouvelles taxes mises en place, celles par exemple sur les multinationales que propose l'économiste Zucman. Cette dernière pourrait permettre d'engranger 25 milliards d'euros. Résultat, le nouveau Front Populaire tape sur un budget à l'équilibre avec des dépenses égales aux recettes.
Merci beaucoup Zidane. 18h03, on part maintenant sur les marchés qui, vous l'avez vu depuis une bonne semaine maintenant, sont très sensibles, depuis deux semaines même maintenant quasiment, très sensibles au programme économique des différents candidats aux élections législatives en France. Bonsoir Étienne Brac, on vous retrouve à Euronext. Quel bilan on peut faire de la semaine qui vient de s'écouler ?
Bien écoutez, après une baisse de plus de 6% la semaine dernière, le CAC 40 reprend 2% ce soir à la clôture, au-delà des 7600 points. À noter que le marché s'adapte aux incertitudes. Hein, quand vous regardez des valeurs très internationales comme Essilor, comme Publicis ou encore Téléperformance, elles font une très belle semaine, alors qu'à l'inverse, le secteur bancaire, qui est très dépendant à la situation actuelle, n'est toujours pas ramassé. La plupart des investisseurs sont toujours en mode wait and see, beaucoup d'attentisme en attendant les deux scrutins législatifs dans le secteur de l'immobilier, dans les banques d'affaires, dans les grands groupes, certains projets sont en pause. Et puis alors, si vous regardez un autre indicateur, vous savez, le marché obligataire, quand vous regardez le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, vous avez 75 points de base. Pour rappel, la semaine dernière, on était à 80 points de base. Donc après une petite détente en début de semaine, eh bien vous avez un écart de taux qui se retend à nouveau. Néanmoins, il n'y a pas de panique. Hein. Et puis comme on a pu le voir hier, la France a levé plus de 10 milliards sur les marchés sans grande difficulté, puisque vous avez une demande qui était plus de deux fois supérieure à l'offre, donc ça montre toujours que les investisseurs sont présents et ont toujours confiance dans la France, au point que la France est financière aux mêmes conditions qu'il y a 15 jours.
Bon, jusqu'ici tout va bien. Merci beaucoup Étienne, on vous retrouve dans 4 minutes pour refaire un point sur la séance du jour. Dans l'actualité des entreprises à présent, l'enseigne Camailleux renaît de ses cendres, 2 ans après sa liquidation. Le patron de Célio a racheté la marque aux enchères en 2022 et il a annoncé ce matin que des magasins Camailleux allaient rouvrir à la fin du mois d'août. Pauline Tadevin.
Symbole de sa force, la marque Camailleux sera à nouveau disponible à l'achat le 29 août dans une douzaine de boutiques Célio en France et en Belgique, ainsi que sur Internet. Sur les étagères, on trouvera des vêtements destinés aux femmes étiquetés Bicamailleux, en plus de l'offre masculine Célio. La direction de Célio compte agrandir certains de ses points de vente existants pour créer des magasins de grande surface entre 700 et 1000 mètres carrés. Dans l'immédiat, elle annonce la création de 75 postes entre les boutiques et le siège. Son objectif affiché, c'est de jouer dans la même cour que d'autres enseignes comme Zara, H&M ou Gap qui font toutes du prêt-à-porter à destination des hommes et des femmes. D'ici 3-4 ans, elle vise une cinquantaine de magasins de ce type. Pas d'indication en revanche sur le montant que Célio, qui se dit en croissance depuis 3 ans et rentable, va devoir débourser pour y arriver.
Voilà le grand comeback de Camailleux cet été, Pauline Tadevin. Et puis pour finir, l'ancien patron emblématique du groupe Hachette, Arnaud Nourry, était notre invité ce matin dans la matinale, dans Good Morning Business. Il a monté son groupe d'édition Les Nouveaux Éditeurs, après avoir quitté le groupe Lagardère il y a 3 ans. Et il nous explique son business model, le business model de son entreprise, l'entrepreneur Arnaud Nourry. On l'écoute.
Et j'ai monté Les Nouveaux Éditeurs avec un groupe d'amis qui m'accompagne. On a le financement pour les 2-3 prochaines années, c'est parfait. Il y a une grande vitalité dans ce marché. C'est à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, prix public, le marché de l'édition. Donc c'est la première industrie culturelle. Et j'ai eu envie de proposer un espace de liberté, un espace d'indépendance avec un mélange d'un monde professionnel avec des moyens, un contrat de diffusion-distribution, des possibilités de fabriquer avec les bons prix de revient, et aussi de l'esprit boutique qu'aiment beaucoup les auteurs et les éditeurs, c'est-à-dire des petites équipes autour d'une marque, de l'agilité et encore une fois une liberté totale. Et je ne suis pas certain que ces qualités-là soient offertes par tous les confrères.
Le message est passé. 18h07, on retourne sur les marchés.
Votre programme avec Salva Bagarance. Votre épargne autrement. Salva. Salva le faire. Salva le faire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Les marchés, de retour à Euronext avec Étienne Brac. On a fait le bilan de la semaine, on s'est un peu repris. Qu'est-ce que ça a donné précisément aujourd'hui, Étienne, pour finir la semaine ?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous avez une séance de consolidation après un gain d'un peu plus d'1% hier. Le CAC 40 repart à la baisse. Moins 0,56% ce soir à la clôture. Néanmoins, il est toujours au-delà des 7600 points. 7628 points. Je vous le disais, un gain de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine avec des inquiétudes qui sont toujours là, même s'il n'y a pas de panique. Néanmoins, quand vous regardez les indicateurs macroéconomiques, vous savez, les PMI, les indicateurs avancés, ça montre quand même, qu'il y a une certaine inflexion qui est en cours. Les donneurs d'ordre, notamment en France, dans le secteur des services, dans les secteurs industriels, qui lèvent un petit peu le pied sur leurs projections. Donc ça, typiquement, ça fait baisser un petit peu les valeurs cycliques, à Limoges de Saint-Gobain, qui perd un peu plus de 3%, les valeurs bancaires, qui avaient bien performé hier, repartent déjà à la baisse, alors qu'à l'inverse, les valeurs défensives sont recherchées. Tout ça, donc, fait un bilan en demi-teinte, donc pour le CAC 40, qui cède donc 0,56% ce soir à la clôture, à 7628 points.
On garde les 7600 points, effectivement, des PMI plus que mitigé, publié ce matin. Merci beaucoup Étienne en direct d'Euronext et très bon week-end. 18h09, on marque une pause et dans un instant, nos experts arrivent et on débat en direct de l'actu éco du jour jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Ils sont là, nos experts du soir, pour finir la semaine. Xavier Patrolin, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Albatros Capital, à vos côtés François Girolge, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, et face à vous, ou avec vous, on verra comment tournent les débats, Samuel Botton, bonsoir.
Bonsoir.
Expert en communication. Messieurs, on attendait ça de pied ferme, c'est l'actu de la mi-journée, en tout cas, des temps forts du jour, le chiffrage du programme économique du nouveau Front Populaire. L'alliance des gauches a abattu carte sur table. Il y en a pour, on va s'arrêter juste 2024-2025, 125 milliards d'euros, 25 milliards cette année, 100 milliards l'année prochaine pour faire beaucoup de réformes, pour revenir sur beaucoup de dispositifs, abroger les réformes des retraites et de l'assurance chômage, augmenter le SMIC à 1600 euros net, augmenter 10% les APL et le point d'indice des fonctionnaires. Depuis plusieurs jours, les chefs d'entreprise de manière unanime que ce serait une catastrophe pour l'économie. Est-ce que vous partagez ce diagnostic avant qu'on rentre dans les détails, Xavier Patrolin?
Oui. On a assisté ce midi, mais depuis quelques jours, à quelque chose qui est totalement, enfin, je trouve très surréaliste, parce que ça se fait, on a l'impression qu'on est dans une économie qui est en excès de financement, qui a structurellement un problème de demande, qui a pas de déficit budgétaire, qui a un ratio dette sur PIB tout à fait correct, et qui doit absolument stimuler sa demande interne. Et donc c'est un raisonnement, en plus c'est un raisonnement qui est fait, j'allais dire, franco-français, petit village gaulois, c'est-à-dire qu'il n'intègre pas l'appartenance, en tout cas à la zone euro. Non, il y a des choses totalement délirantes. Une chose qui est très étonnante au fond, c'est de dire...
Bah, déjà, pardon, donc c'est un mauvais diagnostic, vous dites.
Sur la situation
économique, voilà, c'est un mauvais diagnostic. C'est pas la demande.
Il y a une partie du diagnostic qui est quand même là-dessus, je les rejoindrai quand même, parce qu'il y a il faudrait faire une espèce d'analyse des limites de la politique qu'a mis Emmanuel Macron en place. Et au fond, cette politique de l'offre devait percoler, devait diffuser.
Ruisseler.
Le terme, c'était le ruissellement. Il pleut beaucoup par les temps qui courent. Mais là, ça n'a pas ruisselé. Alors, ça n'a pas ruisselé pour des raisons intrinsèques et des raisons extrinsèques. Les raisons extrinsèques, c'est évidemment les deux chocs qui ont
lieu. Quand on crée des emplois, qu'on rouvre des usines, qu'on a un pouvoir d'achat en moyenne
Il y a des travailleurs pauvres, bien sûr, et vous avez une crise immobilière. Au fond, le problème, vous entendez, on va se concentrer sur un seul élément, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est central pour nos concitoyens et particulièrement pour les classes dites populaires.
Ouais, ouais.
Mais le problème,
c'est évidemment la clé du programme du Nouveau Front Populaire.
Voilà.
Ces 125 milliards, c'est beaucoup pour ça.
Voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'adresse pas cette problématique immobilière qui est centrale. Et au fond, Emmanuel Macron a commencé à faire un mea culpa au cours de sa conférence de presse qui a été repris ensuite par quelques ministres, mais de manière très timorée.
Oui, Bruno Le Maire hier, même devant les patrons.
Alors, dans l'indice d'inflation calculé par l'INSEE, les loyers représentent 6,7% en pondération de l'indice. D'accord ? Si vous prenez en agrégé les loyers plus les frais annexes, on arrive à 14%. Pour une grande part de nos concitoyens, le taux d'effort pour l'immobilier est entre 20 et 25. Et pour les catégories populaires, le taux d'effort pour l'immobilier est aux alentours de 30%. Alors quand vous voyez de la gauche à la droite, des gens qui disent on va soutenir le pouvoir d'achat, mais ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la problématique immobilière. Et là-dessus, alors dans le programme qui a été présenté ce midi, il y a une des annonces budgétaires, mais qui sont pas à la hauteur de la problématique. Mais j'en reviens à un point central, parce que le financement, c'est bien d'annoncer 150 milliards de dépenses additionnelles sur les trois prochaines années.
On pensait financer par 150 milliards de recettes,
d'impôts. Voilà. Alors, vous avez vu notamment sur l'impôt sur le revenu, on allait passer de 7 tranches à 14.
De 5 à 14, ouais.
Hein, de 5 à 14. Et alors, il y a le miracle quand même, on passe de 5 à 14, mais 92% des foyers fiscaux ne seront pas impactés, voire seront impactés favorablement. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Donc, je suis très surpris de la caution universitaire d'économistes de renom, voire des prix Nobel d'économie qui apportent la caution à un tel projet qui est complètement stupide. Qu'est-ce qui va se passer? Et je m'arrête derrière. Au fond, si par malheur, je mets le terme entre guillemets, si par malheur ils arrivaient au pouvoir, que va-t-il se passer? Ils vont tenter d'exécuter leur programme. Ils vont avoir quelques freins qui vont quand même se mettre en place, nos partenaires européens. Mais choc inflationniste, déficit commercial, baisse de la compétitivité des entreprises, donc destruction de ce qui a été, parce qu'au fond c'est un reverse intégral de ce qui a été depuis une dizaine d'années. Donc vous êtes à la tête d'un super tanker qui se dirige vers un iceberg et le capitaine vous dit on va mettre plein de bourre et on va virer encore plus vite, ce qui est une idiotie complète. Donc on est sûr que d'un tel dispositif on ressort avec un déficit budgétaire qui va devenir plus important, on ressort avec une contrainte financière avec des spreads de financement qui vont augmenter et on devient là l'homme malade, mais véritablement assumé de la zone euro.
François Gérolf, est-ce que vous partagez cette analyse est sans ambiguïté de Xavier Patrolin?
Je partage une partie de l'analyse, mais une partie seulement.
Alors allons-y,
il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Xavier. Donc la première, c'est sur le diagnostic. Je suis pas complètement d'accord avec le fait que... moi, je suis assez d'accord avec le diagnostic du Nouveau Front Populaire, en réalité. C'est-à-dire, premièrement,
de la politique... de demande dans le pays.
La politique de l'offre, en tout cas, n'est pas efficace, n'a pas été efficace. Ça a été évalué par France Stratégie, par exemple. La réforme, la flat tax, même la réforme de l'ISF, n'ont pas, en fait, amené plus d'investissements, n'ont pas ruisselé. Il n'y a pas eu les créations d'emplois auxquelles on s'attendait. Il n'y a pas eu l'investissement auquel on s'attendait. Donc, tout ça n'a pas marché.
Pardon, non, France Stratégie, ça n'a jamais été très clair. Hein. Ils ne peuvent pas vraiment évaluer avec précision.
Oui, mais alors,
ils disent pas que ça n'a pas marché.
Quand vous connaissez le fonctionnement de ce genre d'organisme, on va dire que si ça avait un petit peu marché, ils auraient été très contents de le dire. Ils auraient été vraiment très contents de le dire. Donc, s'ils vous disent qu'ils n'ont pas trouvé d'effet, ça veut dire que vraiment, jusqu'à présent, il n'y a absolument aucun effet. Les gens qui ont été mis dans ce comité sont plutôt des gens qui sont assez convaincus, a priori, par la politique du gouvernement. Mmh. Et donc, ils n'avaient vraiment aucun intérêt à trouver que ça ne marche pas. Donc, je pense qu'on peut conclure de ces études que l'efficacité a été, la politique de l'offre n'a pas fonctionné en tout cas. Donc sur ça, en tout cas, je suis d'accord avec le nouveau Front Populaire. Après, effectivement, sur la question de la demande, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on manque en France? Il y a un déficit commercial assez important, il y a un problème quand même d'offre.
80 milliards en énergie.
Même si je suis d'accord sur le fait que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné, on a un problème d'offre. On produit pas assez en France par rapport à ce qu'on consomme déjà, et donc rajouter une couche par rapport à ça, effectivement. C'est pas forcément l'urgence. En tout cas, et il y a quelque chose d'ailleurs dans le programme qui est un peu surprenant, qui est un tarif douanier, en fait, qui prend pas ce nom, qui prend le nom d'une taxe kilométrique, en réalité. Donc, taxe kilométrique, l'idée, c'est vous taxer les produits en fonction de la distance.
L'éloignement géographique, ouais.
L'éloignement géographique. Donc, si vous les faites importer d'Allemagne ou de Chine, mais évidemment, c'est totalement contraire avec les règles européennes. Donc, le fait que tout ça ne soit pas discuté, à mon avis, moi, je serais assez, pour être honnête, je pense que c'est le genre de mesure qui, effectivement, pourrait
rien
être utile en France, parce que la France a à la fois un problème, effectivement, de chômage et en même temps un problème de déficit commercial important. Donc, résoudre cette contradiction en mettant un petit peu de protectionnisme et en augmentant la demande, c'est quelque chose qui ne me choquerait pas. Mais dans le contexte européen, et a priori, le programme du nouveau Front Populaire s'intègre dans le cadre européen, je ne vois pas comment c'est faisable. Donc, il y a plein de questions comme ça qui, à mon avis, ne sont pas
contradictions.
Voilà.
Samuel Botton.
Je suis moyennement d'accord avec mes confrères de ce soir. Le programme, pour le coup, vu de l'extérieur, il est ambitieux, il est audacieux, il est différent. Et il va à contresens. Et alors, dans un contexte de rigueur, comment est-ce qu'on peut organiser la relance économique? C'est tout ce que vous venez d'évoquer. Moi, je vois trois piliers. La politique sociale, l'investissement, la justice fiscale et la vieille marotte de 95, résorber la fracture sociale. Alors, il y a certains points qui m'ont fait sourire dans le programme, notamment la hausse des APL, qui est un clin d'œil évident.
Bien sûr.
À la première mesure qu'avait pris Emmanuel Macron en 2017 quand il est arrivé, avec une baisse de
5%. 5 euros, non?
De comment?
5 euros, je crois.
Non, 5 euros, pardon, tout à fait. 5 euros, autant pour moi.
Mais 5 c'est à peu
euros.
Près 5%.
Non, c'est rien, mais...
Donc, il y avait ce point-là. Et après, là où j'ai par contre...
C'est le sparadrap du capitaine Haddock, ça, les APL de 5 euros.
J'étais concerné à l'époque, donc c'est pour ça que ça m'avait frappé. Seule incertitude, c'est le cap qui est fixé par le nouveau Front Populaire, notamment en termes de timing et de calendrier, où là, j'ai beaucoup de mal à avoir de la visibilité. Et après, ce qui m'inquiète, c'est-à-dire des bonnes choses, il y en a. Revenir, par exemple, sur les niches fiscales qui sont inutiles, c'est un très bon point. L'assurance chômage, qui est un non-sens, c'est un très bon point. Sur les retraites, je suis un peu plus modéré, parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué de revenir à 60 ans. On peut éventuellement trouver un point d'ajustement.
60 ans, c'est 2026-2027. Ouais. Là, on abroge la réforme actuelle.
Ça sera complètement impossible, autant le dire de suite. Et on pourrait arriver à un point d'équilibre éventuellement à 63 ans. Et puis surtout, la question, c'est comment est-ce qu'ils ont la volonté de remettre le pouvoir d'achat au centre. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est face à un programme qui agrège énormément d'idées et de courants de pensée. Vous avez la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes, les communistes.
Ah ben là, pardon, c'est surtout la France Insoumise.
Oui, on voit.
C'est la même. C'est le vraiment.
C'est un programme
c'est
qui
ce
est
que
moins
dit
depuis
2017.
C'est un programme qui est moins axé la France Insoumise que celui de la NUPES en 2022. On est sur quelque chose qui est différent.
Dans la philosophie, ça ressemble beaucoup au programme de Jean-Luc Mélenchon depuis 2017. Hein. Je me souviens, on avait fait des oraux avec lui qui duraient 3-4 heures, très transparent, là, pour le coup, sur les réseaux sociaux, dans la pensée, dans les chiffres, dans les masses, dans la mécanique. Ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est quand même dans la droite ligne de ça. Hein. Je trouve, c'est que mon opinion.
La réforme fiscale
quand même
dont vous avez parlé, notamment.
Dans la droite ligne, mais parce que vous êtes sur un mouvement de gauche, la LFI est en majorité dans ce parti, mais après, on est obligé de reconnaître qu'il y a des arbitrages qui ont été pris et qu'on arrive plus ou moins à un juste milieu. Alors après, moi, ce qui m'inquiète, c'est par contre le fait qu'on soit dans une campagne qui génère forcément de la surpromesse, et c'est les dégâts que ça va générer derrière. Ce que je reproche à la
au
Nouveau Front Populaire, c'est d'avoir pensé à très long terme là où il fallait penser sur deux ans. C'est de s'être projeté à très long terme là où on n'a aucune certitude sur ce qui se passera en 2027. Et ça va créer du désespoir, ça va créer de la colère. Pourquoi ? Parce que le programme en tant que tel, dans son intégralité, ils ne pourront pas l'appliquer. Pour plusieurs raisons. Parce que
ils ont séquencé, hein, ils ont dit cette année on fait ça.
Ils ont séquencé, sauf qu'ils ont oublié un point très important, et c'est là que je leur en veux. C'est quelle sera la finalité au 8 juillet ? Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire une chose, une majorité absolue ne semble pas se dégager. Même avec des accords de parti à côté, ça ne sera pas la configuration. Donc, dans ce contexte-là, il faut faire preuve de réalisme. Et c'est là que j'ai tendance à penser qu'effectivement, d'un côté, une ligne de rigueur incarnée par ce qu'a été le gouvernement Macron aujourd'hui, et le renouveau des idées, le parti pris du Nouveau Front Populaire d'un point de vue économique, et essayer quelque chose de différent, parce que jusqu'à aujourd'hui, et ce que vous avez dit vous aussi, messieurs, c'est-à-dire, ça n'amenait à rien. Alors après, on peut amener un diagnostic sur ça. Pourquoi ça n'amenait à rien ? Ben parce que 2020-2021, le gouvernement, il a ouvert les vannes, et je pense que dans le même contexte, le Nouveau Front Populaire aurait fait exactement la même chose que Bruno Le Maire. Aujourd'hui, on le paye, et on ne rembourse pas un an et demi de vie à crédit en deux ans. Ça va prendre un peu plus de temps que ça. Et ça, il fallait le prendre en compte. Après, sur le reste, de vouloir remettre le pouvoir d'achat au centre du débat, de vouloir accompagner les Français dans cette démarche, je ne peux que m'en féliciter, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de manière pragmatique ses courses au quotidien, le différentiel entre 2017 et aujourd'hui, c'est ahurissant. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est aussi un problème qui avait été soulevé déjà depuis 2020 par Marine Le Pen quand elle commençait à préparer sa campagne de 2022.
C'est elle qui a imposé le thème du pouvoir d'achat dans la, la politique.
Complètement. Donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a un programme de plein pouvoir, on est sur du trop long terme, et ça va forcément susciter de la déception. Et après, le plus que je trouve dans ce programme et dans ce qui a été mis en place, et c'est pour faire écho à ce que vous disiez, j'ai fait le simulateur
D'impôts.
Du nouveau système d'impôts du Nouveau Front Populaire. Ça va me coûter 47 euros de plus, mais au moins je trouve la démarche transparente et on n'est pas pris en traître.
Xavier Patrolin.
Qu'à partir de ce
économiquement,
47 euros,
pour résumer, on peut dire que c'est la relance keynésienne,
c'est possible.
C'est de faire ou pas vraiment? C'est un faux raccourci, quoi, de dire ça.
Non, mais quand on écoutait la syntaxe de la conférence de presse, il y avait beaucoup le terme justice. Et je trouve qu'il y avait une volonté de mettre en place une fiscalité que d'aucuns qualifient de confiscatoire. C'est-à-dire, au fond, on se préoccupe pas tellement des conséquences économiques. Au fond, on part du diagnostic que la politique budgétaire mise en œuvre depuis 2-3 ans se caractérise par une absence de recettes fiscales. Les recettes fiscales, au fond...
Non, ils disent l'argent dorme, en fait. Il y a du capital dans le pays, mais il dort.
Il a surtout bénéficié.
Et donc, il faut aller le chercher.
Il a bénéficié.
C'est ça qu'ils ont dit.
Ça dépend de qui on parle, en fait. Si on parle des grandes entreprises, des grandes fortunes, oui, il y a du capital qui dort.
Il y a beaucoup d'épargne.
Si on parle des Français moyens, non, il n'y a plus rien. L'épargne, elle est terminée, on arrive à bout.
Il ne faut pas dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'épargne en France, puisqu'on a un déficit courant. Une économie qui a un déficit courant, de ses entrées et sorties de capitaux, et par construction, une économie qui n'épargne pas. Alors après, il y a une répartition de l'épargne qui n'est pas homogène entre les différents déciles de revenus.
Bien sûr, loin de là.
C'est ça, et c'est ça qui me semble adresser. Au fond, c'est cette péréquation-là. Au fond, le discours qui est mis en place, c'est un discours à l'adresse du renoncement depuis plusieurs décennies de la gauche par rapport aux classes populaires. On leur adresse un message en disant on va rééquilibrer.
C'est ça.
Les inégalités de patrimoine par une politique fiscale extrêmement déterminée. Cette politique fiscale, elle a deux objets essentiels. Premier objet, rétablir un peu de pouvoir d'achat pour les déciles de revenus les plus faibles. Je le conteste, parce qu'il y aura des phénomènes inflationnistes, surtout il y aura des phénomènes de préservation de marge, et des conséquences en termes de commerce extérieur et de dégradation de compétitivité seront importantes. Et surtout, il y a le sous-marin classique de la gauche. Au fond, on voit bien que la gauche n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est on reste sur la bifurcation écologique. C'est-à-dire, c'est structurel, c'est-à-dire on va consacrer une grande partie des ressources dont on va disposer pour favoriser cette bifurcation. Et derrière cette bifurcation économique...
C'est pas clair du tout sur l'écologie. Hein,
il n'y en a pas beaucoup.
Tout va dépendre, du résultat des élections.
Non, mais ce terme,
c'est justement...
Ce terme apparaît. LFI, moi, quand je vois la position, on va dire, je ne veux pas dire qu'elle est centrale, mais la position de LFI, à ce stade, reste toujours pour fin du programme nucléaire. Ouais. Ce qui serait, pour le coup, un double ou un triple suicide. Donc, on est dans une situation...
on ne peut pas dire que le gouvernement Macron n'a pas eu une stratégie de protection du pouvoir d'achat. Il a totalement erré sur la partie immobilière, puisque ça a été un angle mort depuis
qu'il est au pouvoir. Depuis le départ.
Mais par contre, la mise en œuvre du bouclier énergétique n'avait pas d'équivalent en Europe, à tel point d'ailleurs qu'elle a été copiée partiellement par nos pairs européens. Donc ça prouvait bien que la stratégie mise en œuvre et que même
l'Élysée... On va y faire maintenant, mais qui assumait.
Oui, mais voilà, c'était donc très clairement une mesure de protection. Et d'ailleurs, à l'époque, ces mesures de protection, LFI, une partie de la gauche, voire toute la gauche, a voté contre au Parlement. Donc il est très étonnant de les voir... Ce midi, faire une prestation open bar, on annonce une stimulation de 150 milliards de dépenses avec 150 milliards de recettes fiscales, dont la moitié se tape sur les hauts patrimoines. Les hauts patrimoines, ça sera probablement à partir de 4 000 euros de revenus par mois. Hein. C'est à la fois en revenus et en patrimoine. Et puis on retrouve la fameuse marotte des super profits, où là, on espère dégager à nouveau
15 milliards
annuels. Donc moi, je trouve, vous voyez que passer des heures, enfin des nuits entières pour arriver.
Espérer trouver 200 à 300 millions.
Un programme équilibré comme ça, moi, alors franchement, je suis capable de le faire, j'allais dire presque tout seul, en face de moi-même, entre quatre murs, avec mes tableurs Excel, j'arriverai à cette prestation.
Hein. Samuel Botton, en 30 secondes.
Non, moi je voulais poser la question, est-ce que ce qu'il reprochait à Emmanuel Macron, c'est sa politique économique ou la violence sociale dont il a fait preuve? Et le dernier point, moi, qui m'a interpellé dans les interviews que j'entendais ce matin, le nouveau Front Populaire se revendique dans la logique de Biden, de la relance par le travail.
C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment. Bon, on en parlera après.
Allez, ouais, absolument, parce que c'est très intéressant. Il y a évidemment un écho à ce qui est fait aux États-Unis. 18h30.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
18h35 sur BFM Business, la suite des experts du soir. On débat jusqu'à 19h de l'actu écho du soir avec Xavier Patrolin, François Géroff et Samuel Botton. Samuel, qui tendait une perche à Xavier juste avant la pause en disant... Le Front Populaire s'inspire un petit peu de la politique économique de Joe Biden.
C'est ce qu'ils disent clairement dans toutes les interviews, la tournée d'interviews qu'il y a eu ce matin.
Et ça fait bondir de sa chaise. Xavier Patrolin, d'un mot pour finir là-dessus. Et après, on passe à Bruno Le Maire.
Oui, pourquoi ça me fait bondir?
Ouais.
Parce que ça n'a rien à voir. En termes de financement, ça n'a rien à voir. Même si Joe Biden a parlé souvent d'une justice fiscale, mais il vient du Delaware, donc c'est un peu difficile pour l'ancien sénateur du Delaware de. Rappelons que
l'État roi de l'optimisation fiscale.
Voilà, donc c'est un peu difficile d'être un parangon de vertu en termes de justice fiscale.
Même si le Delaware a chassé Elon Musk.
Oui. Mais non. L'approche de Joe Biden, c'est rendre aux Américains leur fierté d'être Américains. C'est Trump, c'est les États-Unis.
MAGA, ouais.
Mais Joe Biden, c'était vraiment et c'est ciblé sur la classe moyenne,
classe ouvrière,
la classe ouvrière, la classe moyenne inférieure, et avec une focalisation en termes de réindustrialisation. Et il sait que ça va être très très long. C'est absolument pas présent dans le programme qu'on a entendu ce midi. D'où l'histoire de la bifurcation. Il y a un vague discours sur les petites moyennes entreprises avec des effets bénéfiques sur le SMIC. Hein. Les petits patrons d'entreprises sont heureux d'apprendre qu'en augmentant le SMIC, ils vont avoir des aides de l'État. C'est une chose, mais s'ils y croient, mais surtout une augmentation de leur carnet de commandes et du chiffre d'affaires. Tout le monde sait très bien que lorsqu'on augmente le SMIC, ça a un impact très favorable sur l'activité, ça déforme le commerce, etc. Donc c'est pas du tout l'approche de Joe Biden. Joe Biden est extrêmement concentré, ciblé sectoriellement et avec une analyse, j'allais dire géostratégique sur la mutation à venir, sur la mutation à venir de l'économie américaine. Donc c'est une analyse économique qui n'est pas repliée sur Make America Green Again, mais Make America Great Again, et c'est surtout pour redonner une valeur ajoutée, ce qui est totalement absent de ce qu'on a entendu ce midi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une analyse des faiblesses. Il y a une analyse des faiblesses sociétales de la politique Macron, mais il n'y a pas une analyse des faiblesses intrinsèques de l'économie française par rapport à ses pairs européens. Ouais. Donc si vous mettez en œuvre une stratégie économique qui fait abstraction, qui ne parle pas de cela et du repositionnement de moyen terme, vous pouvez parler de bifurcation écologique, ça c'est de la soupe pour ceux qui veulent, entre guillemets, modifier la société. Hein, au fond, c'est des trotskistes à la petite semaine qui essayent de modifier la société à leur façon et qui avancent en sous-marin masqué avec la fameuse transition écologique. Mais c'est, au fond, c'est pas du tout un positionnement en termes de valeur ajoutée sur la situation de la France dans l'Europe.
C'est vrai que dans la politique de Joe Biden, il y a beaucoup des aides aux entreprises, des crédits d'impôt, des aides, l'IRA, exactement. Voilà. Il y a une composante aussi protectionniste, c'est-à-dire on aide seulement si on achète des voitures américaines ou assemblées aux États-Unis, etc.
Des droits de douane énormes vis-à-vis de la Chine.
Que ce soit les aides d'État ou les droits de douane, c'est pas quelque chose que la France peut faire. Et en fait, c'est vrai que la France est dans une situation assez similaire à celle des États-Unis, c'est-à-dire relativement désindustrialisée, avec un déficit commercial assez important, avec un niveau de demande déjà important. Donc, idéalement, il faudrait que la France fasse peut-être la même chose. Le problème, c'est que la France est dans l'Europe. Ouais. Donc, elle ne peut pas faire la même chose.
Et on n'en a pas les moyens, comme vous l'avez dit.
Et ça peut se discuter, parce que les Américains, ils font énormément de déficit public, 7-8%. Donc, Xavier, ça serait peut-être pas d'accord avec ça, mais voilà, moi, ça me stresse un petit peu moins que lui.
Puisqu'on parle de gros sous et d'argent public, Bruno Le Maire, pendant ce temps-là, ce matin, a été au Luxembourg avec ses pairs, en tout cas pour les jours qui viennent, les ministres européens des finances. Il y avait un Ecofin et un Eurogroupe qui se tenaient hier soir et ce matin. Et il leur a promis, si il l'emporte, si sa majorité l'emporte, qu'on ramènerait le déficit sous les 3%. Il tient l'engagement, quoi qu'il en coûte, j'allais dire. Est-ce que vaut cette promesse aujourd'hui? Enfin, déjà, qu'est-ce qu'elle valait avant la dissolution et qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui encore?
Aujourd'hui, elle ne vaut plus rien parce que, tout simplement, nous n'avons plus, au moins pour les 3 prochaines semaines, peut-être plus, aucun poids et aucune crédibilité au vu des devant les acteurs européens et ceux qui nous donnent des comptes. On a été pénalisés. Bruno Le Maire, il est dans son rôle. Il est en campagne, il surpromet, sa promesse c'est de ramener le déficit à 3% en 2027. Ça me semble clairement impossible et du coup, refaire le parallèle avec ce que je disais précédemment, on ne rattrape pas deux à trois années de contexte géopolitique difficile, de cadeaux en quelques mois, quelques années, ça va prendre un peu plus de temps.
En campagne pour quoi?
En campagne
Je pensais qu'il était en campagne pour avoir un poste au niveau européen.
C'est pas interdit de le penser.
Parce qu'il n'est pas très impliqué dans cette.
C'est visible, on va voir ce qui va se passer, on va voir le comportement qu'il a tenu. C'est des déclarations qui engagent sur le point de vue de la campagne. La séquence, elle est floue et pleine d'incertitudes. Donc pendant trois semaines, on n'a pas voix au chapitre. On pourra dire ce qu'on veut. Je pense que tout le monde, et même à l'international, s'accorde à peu près à dire que le paysage politique français aura changé. Donc il est plus audible dans le débat public, il a une crédibilité qui est engagée. Et la question, c'est quel avenir sur les 2-3 prochaines années pour la France? Alors, ça va nous faire un point avec le prochain débat qu'on aura tout à l'heure, c'est-à-dire notre place dans l'Europe, la réalité du couple, ou du moins de ce qu'était le couple franco-allemand et qui ne l'est plus. Et puis bon, la Commission européenne, l'Union européenne plaide pour une politique d'austérité vis-à-vis de nous depuis plusieurs mois déjà. Ce que Bruno Le Maire a essayé de tenir, donc ça veut dire essayer de colmater les brèches qui ont été générées par les situations précédentes. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel pur et dur, vous n'avez aucune latitude à appliquer pleinement un programme qui vous amènera à tendre vers ça. Et même si vous aviez cette latitude, vous n'atteignez pas les 3%. Donc pour moi, ça va être assez compliqué. Et la question, c'est quelle sera notre place au sein de l'Europe dans trois semaines et qu'est-ce que ce sera pour les 3 et 8 prochaines années.
Prochain mandat de la Commission jusqu'en 2029. Vous êtes d'accord tous les deux pour dire que c'est strictement impossible de revenir sous les 3% en 2027, que c'est une surpromesse, comme dit Samuel?
Vous voyez là, le programme dont on discute, c'est dépenser 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards de plus, enfin on ne sait pas très bien, mais,
non, mais là,
en tout cas dépenser beaucoup
Le Maire
plus.
Avec son programme à lui.
Mais donc du coup, son programme à lui, c'est de retirer en gros 100 milliards dans les dépenses publiques. On voit bien qu'entre les deux, entre ce qui est promis
50,
aujourd'hui,
ce que dit la Cour des comptes, 50.
Oui, mais en fait, les règles européennes, si on les applique strictement d'ici 2028, ça fait 100 milliards, en fait.
C'est quoi, c'est les 0,5 de déficit structurel?
C'est ça. C'est chaque année, puisqu'on est. En fait, on est trop éloigné de la cible pour que ce soit 0,5, donc c'est 1% par an de réduction du déficit primaire. Donc c'est un petit peu technique.
Ce serait 100 milliards.
Hors charge d'intérêt, donc ça fait 100 milliards au total. C'est l'Institut Bruegel qui l'a calculé pour la période 2025 à 2028 de réduction du déficit.
Déjà 2027, c'est mort.
Exactement. Donc c'est juste. Enfin, je vois pas comment on va faire ça. Surtout qu'on n'a pas vraiment l'ombre d'une. Enfin, c'est très difficile encore une fois de faire des économies, d'autant plus dans une période où visiblement les choses ne vont pas bien. Le pouvoir d'achat. Enfin voilà, le ressenti en tout cas, c'est que le pouvoir d'achat baisse. baisse, donc il va y avoir d'autres choses.
Bah, on avait une économie qui se tenait à peu près en début d'année, là, les chiffres de l'INSEE, une fin d'année 2023, un premier trimestre 2024.
Faut faire attention parce
pas
que...
si mauvais, pas flamboyant, mais enfin, c'était pas non plus.
C'est pas si mauvais, mais il faut le mettre en regard avec le chiffre de déficit public qui est très important. Donc, on est à 5,5% du PIB de déficit public.
Et là, on espère faire 5,1 cette année.
Voilà, donc, et quand on va essayer de ramener, ça va devenir de plus en plus difficile de faire de la croissance.
Mais alors, donc, juste pour dire que enfin, ce que disait Samuel, on n'est plus entendu au vu de notre situation, mais est-ce que, au fond, ce qui nous arrive là, c'est ce qui est arrivé à plein d'autres pays en Europe? Donc, est-ce que,
oui,
c'est
on si pas déstabilisant que ça?
Non, mais ça arrive en Italie, ça arrive aux Pays-Bas, la coalition allemande, ça a été très compliqué. C'est différent ce qui se passe en France?
Ça n'a rien à voir.
Ah, pourquoi?
Ça n'a strictement.
L'instabilité politique,
oui,
elle existe d'ailleurs.
Bien sûr. Non, mais c'est exact. Mais ça n'a rien à voir avec l'Italie. L'Italie est une
économie. Non, mais voilà, il y a l'Italie, il y a eu la coalition allemande qui est quand même compliquée, aux Pays-Bas. Oui, mais
qui a été redressée. L'Italie, c'est un pays qui dégage. Pardon. L'Allemagne, c'est un pays qui dégage un excédent courant. Budgétaire, qui a un excédent de sa balance des paiements de 8, enfin entre 6 et 8% de points de PIB. Mais qui a un ratio dette sur PIB de 60%. Donc, en Allemagne, quand vous faites une plateforme gouvernementale, vous négociez pas en 2, 3 nuits, vous négociez sur 2, 4, 5, 6, 8 semaines. Et les économistes qui travaillent, je peux vous dire, pour le coup, c'est des économistes sérieux. Non, mais revenons-en à la comparaison France-Italie. Pourquoi c'est intéressant? L'Italie.
Aucun lien.
Non, mais on va pas rentrer, on va faire très simple. L'Italie, c'est une économie qui dégage un excédent primaire de 2 points de PIB depuis sa rentrée dans l'euro. Donc, si vous voulez, globalement, pour faire en cours, l'Italie a un déficit budgétaire de 2%, mais qui se compose d'un excédent primaire de 2% et d'une charge financière de 4%. Ah, 2 moins 4 égale moins 2. C'est bon pour l'instant?
Donc, on a tous compris.
Ok. Maintenant, on prend la France. La France a un déficit primaire actuellement de moins 3,5, une charge financière pas loin de 2%. Le déficit primaire, il est bien scotché à 3,5. Il ne va pas bouger. Et le solde et la charge financière va avoir tendance à monter parce que le rolling de la dette va faire que les taux. Et maintenant, les programmes, parce que la conséquence de la dissolution du Parlement, c'est qu'il y a un mort collatéral qui est la consolidation budgétaire. Quel que soit. Que ça soit la poutre centrale, les Républicains dits modérés, ou que ce soit le Rassemblement National ou le Nouveau Front Populaire, vous êtes sûr que de toute façon il va y avoir de la dépense, tout simplement parce que la société est en train de bouger. C'est bien beau de discuter là autour du plateau équilibre budgétaire, mais la société bouge. Et donc tous les hommes politiques qui seront aux manettes, ils vont, et vous l'avez bien vu, vous avez eu, je crois, une conférence de presse de Gabriel Attal, je crois que c'est hier.
Hier,
où il annonçait, vous découvrez un Gabriel Attal, le même qui annonçait qu'il fallait mettre au 1er juillet l'assurance chômage, il fallait appliquer le décret, annonçait simultanément toute une série de mesures budgétaires, et vous pouviez semer les dispositions.
Ça fait une dizaine de milliards à peu près.
Voilà, on rajoutait 10 milliards. Donc le même qui disait 3 semaines avant qu'il fallait faire 10 à 15 milliards additionnels de consolidation budgétaire sur le deuxième semestre, annonce
qu'il arrive, il y aura des chèques à la
sortie. Ça veut dire qu'on va avoir un solde primaire qui va continuer à se dégrader. Il va être entre 3,5, 4, peut-être plus. Et on a et les charges financières qui vont rester aux alentours de 2. Donc ça veut dire que intrinsèquement pour 2024, mais surtout pour 2025, on a un solde budgétaire qui se dirige vers 6%. Donc vous imaginez bien que nos pairs européens, ils vont commencer à tirer des warnings. Je parle même pas du dispositif du nouveau Front Populaire, parce que le nouveau Front Populaire, là, on peut aller à...
C'est ce que vous dites, Xavier. Pourtant, regardez ce qui s'est passé hier, l'agence France Trésor, elle a eu
aucun problème encore, elle avait de l'argent.
Mais c'est deux sujets différents.
Moi, j'ai une analyse...
On a levé 10 milliards, apparemment, sans aucun...
Non, il faut faire une analyse beaucoup plus... Moi, j'ai fait ce petit travail, donc j'ai 30 secondes pour en parler. C'est vrai qu'en bid to cover, c'est-à-dire la demande par rapport à l'offre, est restée stable. Simplement, quand vous comparez les 5 émissions qui ont précédé depuis le début de l'année sur les émissions moyen terme, donc les émissions entre 5 et 7 ans, c'était des émissions qui se calibraient aux alentours de 12 milliards avec une demande intrinsèque de 30 milliards. Là, la demande qu'on a eue hier, c'est une émission qui a été limité à 10,5 milliards. Donc, ça veut dire que le Trésor public a retiré, par rapport aux 5 précédentes émissions, 1,5 milliard. Et la demande a été de 25 milliards. Maintenant, quand on regarde les 4 souches, alors je rentre un peu dans la finesse du truc, mais quand on regarde les 4 souches, il y a 4 années.
Ouais, tout à fait. Hein,
2007, chance, ouais. 2008, 2009, 2032. Sur 2007, 2008, 2009, la demande, on voit, et le bid to cover, il suffit d'aller sur le communiqué, on voit bien que le bid to cover se limite à 2%, à 2. Et par contre, sur la demande sur le 2032, l'année 2032, là, reste stable. Donc ça veut dire, mais c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ça veut quand même dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur la demande intrinsèque de la dette française, qu'en apparence, la demande reste stable, mais le trésor public a retiré, à mon avis, a retiré à peu près un milliard et demi, parce qu'il a vu que la demande ne collait pas, il a décalé un peu de capitaux sur la duration la plus longue, mais il se passe bien quelque chose. Ça veut pas dire qu'on est en faillite, je dis pas ça, mais ça veut bien dire que le marché commence à réagir. Bon. Et on verra le 4 juillet sur la demande de plus long terme.
Ouais, je pense qu'il y a deux sujets.
Après, on parle de nos amis.
Enfin, moi, je vois plutôt les sujets comme deux sujets vraiment différents. Il y a d'une part les règles européennes, ce que veulent nos partenaires européens et ce qu'on a promis de faire parce qu'on partage une monnaie et dans l'euro, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Et notamment si on veut que la Banque Centrale Européenne continue à acheter du papier français, il faut se fier à ce que dit la Commission Européenne, etc. Parce que sinon demain, elle pourrait décider de ne plus refinancer. En revanche, je pense que la question de ce que pensent les investisseurs de la dette française, c'est une autre question. Et à mon avis, ils sont beaucoup moins inquiets parce qu'ils ne savent pas où investir leur argent. Et ce problème n'a pas disparu. En fait, les Allemands émettent très peu de papier. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on reste relativement...
Défaut, mais bon.
Voilà, exactement.
Mais ça reste quand même à surveiller, effectivement. C'est intéressant, votre analyse, Xavier. Il nous reste 5 minutes pour parler aussi de nos amis allemands. On a parlé des Français, on a parlé des Italiens. Les Allemands, pendant ce temps-là, aujourd'hui, étaient en Chine. En l'occurrence, Robert Habeck, le ministre de l'économie et du climat, pour essayer de trouver une solution pour sortir par le haut sur la question des droits de douane sur les voitures électriques. Est-ce qu'on peut sortir par le haut de tout ça, ou est-ce que là, c'est le début d'une spirale de tensions commerciales entre l'Europe et la Chine, Samuel Botton ?
Moi, je suis très confus sur la dynamique de cette visite. Est-ce que c'est une visite pour l'Europe ou une visite pour l'Allemagne ?
Bonne question.
Et du coup, ça m'amène à un point qu'on aurait pu évoquer sur le débat précédent. La France, d'un point de vue institutionnel, la Ve République a atteint ses limites il y a 2 semaines. Est-ce que l'Europe, dans sa conception telle qu'elle est aujourd'hui d'un point de vue institutionnel, est-ce qu'elle n'a pas elle aussi atteint ses limites ? Donc ça, c'est un premier point. L'enjeu, il est clair.
Vous posez la question de la prochaine Commission européenne, du prochain agenda stratégique, politique commerciale.
Je parle même d'une refonte carrément de l'institution et de son mode de fonctionnement, peut-être même de son mode d'élection, de sa représentation, des objectifs communs qu'on doit fixer, mais aussi des objectifs individuels. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous disiez la France, comme d'autres pays, a été dégradée. Oui, certes, mais la France, c'est pas les autres pays. La France, c'est la locomotive de l'Europe. La France, c'est censé être une locomotive mondiale. Aujourd'hui, on n'y est plus. Pour revenir sur le cas de Robert Habeck, lui, il a un enjeu très simple, c'est protéger les constructeurs allemands. Alors, pas con. La Chine.
C'est un tiers des ventes des constructeurs allemands. Quand même.
Tout à fait.
Voilà, ça dit beaucoup de choses.
Et c'est surtout qu'il va voir son premier partenaire commercial.
Aussi,
parce qu'aujourd'hui, il y a un lien, il faut le maintenir. C'est de l'argent frais, comme dirait Emmanuel Le Chypre, donc il faut continuer à le faire rentrer. Et on ne lâche pas un plan A quand on n'a pas de plan B. Aujourd'hui, concrètement, l'Allemagne, sur cette thématique de l'automobile, elle n'a pas de plan B. C'est la Chine et rien d'autre. Donc, on se retrouve dans un contexte où tout s'entremêle, et c'est ce que je vous disais, est-ce que c'est une visite pour l'Europe ou pour l'Allemagne ? Parce que la Chine, elle prend cette visite d'un point de vue européen.
Oui.
Et elle sort les crocs contre l'Europe. Donc ça m'interroge. Quelle grille de lecture il faut adopter ? J'en sais rien. On a une guerre commerciale dans le viseur. Et alors, pour le dire, et pour alléger un peu le débat, on risque d'avoir l'art de vivre à la française en ligne de mire. Puisque dans la série de sanctions qui sont proposées par la Chine vis-à-vis de l'Europe, on a énormément de produits de bouche qui sont concernés, donc on parle à échelle européenne, mais dans tous les produits de bouche que j'ai vu mentionnés, il y en a beaucoup qui sont une spécialité française. Donc à voir comment on va s'en sortir. Et là, pour le coup, je suis assez pessimiste pour l'Europe, je suis beaucoup plus confiant pour l'Allemagne.
Vous n'avez pas trop là. Il y a quand même une chose qui interroge, c'est-à-dire que tout le monde met des droits de douane, les Indiens, les Brésiliens, les Américains, et nous en Europe, on serait pas capable de le faire.
Là, justement, ça répond. Enfin, le fait que Robert Habeck doive aller en Chine pour s'excuser des droits d'un Européen, ça répond précisément au fait qu'on a augmenté les droits de douane sur les panneaux solaires.
Mais on voit bien que les Français veulent le faire.
En fait, les Français veulent le faire.
On a du mal à
aller. On a du mal, c'est parce que il y a des intérêts divergents en Europe. Les pays avec des déficits commerciaux comme l'Allemagne veulent mettre des droits de douane et veulent convaincre l'Europe, parce que la politique commerciale est faite au niveau de l'Europe, donc de le faire. Et en revanche, l'Allemagne, qui est toujours exportatrice nette, ne veut pas mettre ses droits de douane. En fait, c'est un problème qu'on a depuis au moins 2008. Ça avait été à l'agenda de la présidence française à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait déjà ce problème avec Angela Merkel. En fait, c'est une discussion qu'on a, voilà, parce que l'Allemagne est en surplus commercial, la France est en déficit commercial, donc la France veut mener la même politique que les États-Unis, et l'Allemagne n'a aucun intérêt de ce côté-là. Donc, il faut quand même dire que c'est une victoire de Bruno Le Maire, qu'il a remporté juste avant de devoir partir, sûrement, pour la France, parce que c'est une discussion depuis très longtemps qui est entre les Allemands et les Français, et c'est quand même une petite victoire.
Voilà. En 30 secondes, Xavier Patrolin, et après on passe à l'extra-time, c'est déjà les arrêts de jeu.
On voit bien qu'on est au sein d'une contradiction. Comment parler de pouvoir d'achat auprès de nos concitoyens et de mettre une barrière douanière sur les voitures électriques et de poursuivre l'objectif de décarbonation de l'Union européenne? Vous voyez bien que c'est une contradiction. Nous sommes incapables de produire des voitures électriques.
Prix chinois, gamme, non, ça c'est sûr. Oui.
Ben voilà. Mais l'idée. Donc,
le droit de douane ou pas, c'est mort. Enfin, à ce moment-là.
Mais justement, pour moi.
Il n'y a rien à faire.
Non, mais il y a une question, je l'avais mentionné à plusieurs reprises. Mmh. Est-ce qu'il est pertinent de maintenir des droits de douane pour empêcher des voitures électriques performantes, compétitives, chinoises, alors qu'on a un retard, de productivité, de compétitivité par rapport à la base industrielle chinoise? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on va pas cramer budgétairement beaucoup de capitaux pour un gain faible, tout en ne parvenant pas à nos objectifs? D'ailleurs, à tel point que si on met des barrières douanières sur les voitures électriques chinoise, on va probablement simultanément reporter l'échéance de limitation
de 2035
de la voiture thermique. Donc on voit bien qu'on est au sein de contradictions.
Je ne termine. Le sifflet, la régie a lancé
l'envoi
des arrêts de jeu. On y est déjà, le temps passe vite dans Good Evening. Samuel Botton, c'est à vous, votre coup de cœur ou coup de gueule de l'actu.
Un coup de cœur, un remerciement au service public d'être ce qu'il est, et j'espère qu'il le sera encore dans 3 semaines tel que je l'ai connu. Et je voulais profiter de cette journée de la musique pour remercier chaleureusement les équipes de FIP Radio de nous avoir offert une programmation exceptionnelle jusqu'à dans 6 minutes. Et tout ça à l'initiative des auditeurs, puisque c'est eux qui étaient à la manœuvre. Donc voilà, c'est ça le service public, c'est le bien commun, c'est l'intérêt collectif. Et moi, ça me plaît, je l'aime, et j'espère qu'il continuera comme
moi
ça.
Moi aussi.
Bon, et le cri d'amour de Samuel Botton, partagé par François Gérol pour nos amis du service public de Radio France. François, à vous. François Gérol.
Un coup de gueule sur les règles budgétaires européennes. La Commission met un carton rouge à la France, enfin un carton.
La procédure pour déficit excessif.
Exactement, la procédure pour déficit excessif. Je trouve que des deux côtés, c'est excessif. C'est-à-dire que la Commission européenne, effectivement, va beaucoup trop loin dans ce qu'elle veut de la France. À mon avis, c'est totalement irréalisable. Et paradoxalement, même pour son objectif qui est de forcer la France à revenir dans les clous, etc., de pas trop augmenter sa dette, je pense que ça finit par être contre-productif, et les discussions qu'on a actuellement autour des législatives le prouvent.
Oui, la question de savoir si trop d'économies devient récessif. Et du coup, enfin bref, le serpent qui se mord la queue, quoi.
Et puis à fixer des objectifs irréalisables, en fait, s'il n'y a plus vraiment d'objectifs.
Bon. Xavier.
Alors moi, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule pour Esther Duflo, qui est quand même, bon, prix Nobel d'économie, ça c'est une très bonne chose, mais qui est présidente de la Paris School of Economy et qui apporte sa caution économique au programme du nouveau Fonds populaire. J'avoue que c'est, pour moi, il y a une erreur de positionnement. Okay. Elle devrait avoir une position plus neutre. Elle peut participer du débat public, mais pas apporter sa caution. Uh-huh. Et un coup de cœur pour Olivier Blanchard, qui vient de l'école keynésienne et qui a quand même tiré un gros signal d'alarme, toujours sur le même programme économique du nouveau Fonds populaire. Et voilà, donc c'est très bien que ces économistes participent du débat public, mais il faudrait une certaine neutralité, en tout cas pour Esther Duflo.
Bon, c'est très clair. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé au débat. Samuel Botton, Xavier Patrolin, François Gérolf, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis en direct sur BFM Business dans Good Evening. Si vous n'étiez pas là en direct, c'est pas grave, pas de panique. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sur l'appli BFM Business. Vous nous retrouvez, vous pouvez nous consulter en replay et en podcast. Pour l'heure, on marque une pause. À 19h, Fred Mazzella arrive avec ses pionniers. Et puis à 22h, nouveau rendez-vous à partir de ce soir et pendant tout l'été, les experts de l'été, voilà, je cherchais la formule, c'est tout bête, hein. Les experts de l'été, et c'est à partir de ce soir, et avec tous nos anchormen et women de BFM Business pour refaire le tour de l'actu. Très bonne soirée, très bon week-end sur BFM Business.
Good Evening Business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.